Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Les plaintes fusent de partout. Depuis ces 5 dernières années, la République centrafricaine vit un phénomène nouveau, des inondations qui font des dégâts et des victimes. Ces catastrophes naturelles dues au changement climatique continuent de multiplier le nombre des sinistrés et des sans-abri à travers le pays. Selon la coordination des actions humanitaires des Nations Unies, OCHA, en République centrafricaine, plus de 85 000 personnes sont affectées par des inondations et plus de 18 000 hectares de cultures dévastées. Et donc, selon cette institution onusienne, plus d'un million de Centrafricains ont besoin présentement d'une assistance d'urgence. Du village Ndangala dans la Loba et au village Djabarona sur la route de Boali, en passant par Batangafo dans l'Ouamfafa, Bria dans la Haute-Koto ou encore Ndélé dans le Bamingué-Bangoran, la situation est identique. Question, que fait concrètement le gouvernement pour prévenir ces phénomènes naturels et que faire pour soulager les sinistrés d'une manière urgente? Y a-t-il des responsabilités qui incombent aux sinistrés? Et pour répondre à ces questions, le plateau du débat politique de Radio Ndekeluka d'aujourd'hui reçoit Madame Chantal Touabina, coordonnatrice du réseau des femmes leaders de Centrafrique. Bonjour et bienvenue dans ce débat, madame.
Bonjour, monsieur Armando.
Monsieur Dominique Yandoka, bonjour.
Bonjour.
Député du 4e 1 et secrétaire général du parti ITA, et Antoine Maximilien Mbaga, bonjour.
Bonjour, Fernando.
Directeur de cabinet au ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale. Bonjour à toutes et à tous. Armando Nguindi, c'est moi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Merci. Ouvrons ce débat avec les conditions de vie précaires des sinistrés au village Ndangala, au PK30, route de Maiki. Maxime Joël Alaï était à leur rencontre. Voici son reportage.
Les pluies diluviennes des 5 et 6 octobre dernier ont mis des familles dans la détresse au village Ndangala. Plus de 200 maisons se sont écroulées et 246 familles se retrouvent pour l'instant dans des familles d'accueil et vivent dans des conditions précaires. Anissé Sakanzoya, père de 6 enfants, reste à près de 100 mètres et regarde avec désespoir sa maison écroulée.
La première difficulté, c'est que nous sommes maintenant sans abri et nous avons perdu nos bêtes, pas de bien-être et on ne vit plus dans la paix.
Viviane Kossi et toute sa famille se retrouvent depuis quelques jours sous les palmiers. Elle appelle le gouvernement à l'aide.
La maison s'est écroulée sur nos bagages, vêtements, lits et manioc. On dort pour l'instant sous les palmiers. Nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide.
Armand Rock Swabiti, chef de groupe du village Ndangala de son côté, plaide pour la prise en charge sanitaire de ses sinistrés.
Après cette catastrophe, les sinistrés font face à de multiples maladies, notamment le paludisme. Les convulsions sont fréquentes chez les enfants, tandis que d'autres perdent la vie au cours de l'évacuation sanitaire. Que le gouvernement et les partenaires se soucient de nous, car nous sommes aussi des Centrafricains.
Pour l'instant, plusieurs maisons sont restées dans l'eau. Comme dit un adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les voleurs profitent de cette occasion pour s'emparer des bêtes domestiques qui divaguent après la destruction de leurs enclos. Maxime Joël Lalain, de retour du village Ndangala, Radio Ndekeluka.
Merci Maxime, nous aussi de retour ici dans le studio 2 de Radio Ndekeluka. Première question à vous, Madame Touabina. Dans quelles conditions se trouvent en ce moment les personnes sans abri suite aux pluies diluviennes de ces derniers temps ici à Bangui et dans certaines villes de province, selon vous?
C'est vraiment avec beaucoup de peine que nous abordons ce sujet. Parce que quand vous voyez la situation de nos frères, les sinistrés, c'est déplorable. Vous avez les femmes, les enfants et les personnes âgées qui vivent comme des animaux en ce moment. Parce que vous voyez, les maisons sont dans l'eau, il y a d'autres qui sont carrément sans abri et leurs conditions de vie laissent à désirer.
Voilà, monsieur Yandoka, vous, en tant que député, vous avez vos oreilles dans tout le pays et surtout dans toute la ville de Bangui. Votre lecture de la situation actuelle?
C'est plutôt déplorable de constater que depuis des années, la République centrafricaine, qui est notre pays, connaît de telles catastrophes. Malheureusement, ça en a fait des victimes, que ce soit sur le plan matériel et plan humain. Et aujourd'hui, il n'est plus question de se taire sur cette catastrophe. C'est de regarder comment, quelle solution trouver afin de remédier durablement à cette catastrophe naturelle qui ne fait que faire subir. Les gens vivent dans des conditions précaires et qui manquent cruellement d'assistance. Et les aides données par le gouvernement ainsi que les partenaires ne sont plus tenables. Il faut réfléchir à long terme. Voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport à cette catastrophe naturelle qui a fait tant de victimes.
Roumé Zumbaga, vous êtes directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales sur cette situation. Quels sont les constats que vous-même, au niveau de votre institution, vous avez fait?
C'est comme tout le monde. Nous, au niveau du ministère, nous avons constaté cette situation qui est, je dirais, catastrophique pour la population, surtout la population à la base. Et nous avons tout de suite réagi, mais en fonction des moyens dont dispose le ministère, dont dispose le gouvernement. C'est-à-dire, face à cette situation que nous déplorons aujourd'hui, il faudrait rappeler que c'est le changement climatique qui impacte sur pratiquement tous les pays. Cette situation n'est pas l'apanage de la République centrafricaine. Et le changement climatique a bouleversé beaucoup au niveau de notre condition de vie. Et aujourd'hui, la répercussion est assez grave, notamment au niveau climatique, au niveau de la ville, de la capitale, tout comme dans les petites villes de la République centrafricaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les pluies diluviennes, il y a aussi la montée des eaux. Ce n'est pas seulement à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays. Cela provoque des inondations. Ces inondations fragilisent les maisons. Vous connaissez les genres de maisons que nous avons dans notre pays. Ce ne sont pas des maisons avec des fondations en pierre. Généralement, c'est des maisons qui sont en terre battue, la fondation avec des briques fabriquées de terre. Et cela favorise facilement les écroulements et autres. Cela participe de la pauvreté un peu généralisée au niveau du pays. Donc, avant de dire qu'est-ce que le gouvernement fait, je peux simplement dire qu'avec l'appui des partenaires, nous avons, depuis quelques années, du moins depuis le retour à l'ordre constitutionnel, parce que quand on a mis en place le ministère en charge de l'action humanitaire, dans un premier temps, au plus fort de la crise militaro-politique, c'était beaucoup plus pour gérer la situation créée par les conflits armés. Aujourd'hui, le ministère de l'action humanitaire se retourne vers les conséquences du changement climatique. Et des stratégies sont en train d'être mises en place avec l'appui des partenaires.
On va revenir, mais on reste sur la stratégie ou bien les actions déjà menées par votre ministère pour venir en aide de manière rapide aux sinistrés à l'heure où nous sommes.
À l'heure où nous sommes, si je prends l'exemple de le dernier cas, c'est-à-dire la dernière grande pluie diluvienne du 21-22 juillet, le gouvernement tout de suite a réagi avec les moyens dont ils disposent. C'est-à-dire, nous allons vers les ménages qui ont été affectés par les inondations dues à cette grande pluie de ce moment-là. Donc, il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la base avec l'appui des autorités locales, notamment les élus locaux, les députés, les maires, les chefs de groupe, les chefs de quartier. Avec leur concours, nous avons eu à faire des évaluations rapides de la situation et obtenir certaines listes de ceux qui étaient tout de suite dans les besoins les plus criards. Et nous sommes allés vers eux avec les kits d'urgence, comme cela se fait généralement. Évidemment, ça ne peut pas suffire, puisque quand une maison a été écroulée, il faudrait rapidement trouver un endroit pour essayer de recréer les conditions pour ces familles. Mais pour le moment, le pays ne dispose pas d'un centre approprié, comme nous le voyons ailleurs, pour que les familles affectées puissent être regroupées. Voyez, nous n'avons pas voulu que les choses se fassent comme en 2019 ou 2020, où aussitôt après les inondations, les ménages affectés se sont retrouvés dans les écoles. Il a fallu, en ce temps-là, plusieurs mois, je dirais même plusieurs années, pour faire partie de tout le monde. Et cela a impacté sur la scolarisation des enfants. Donc cette fois-ci, nous avons plutôt demandé à ces familles affectées de voir dans quelle mesure ils peuvent être dans des familles d'accueil ou alors partir en location.
Voilà, mais on y revient. Je reviens vers vous, Madame Chantal Touabina, sur les actions à mener pour aider rapidement ces sinistrés. Vous aussi, vous êtes dans une ONG locale, hein, vous sillonnez, vous recensez, vous parlez avec certains sinistrés. Mais quel constat faites-vous de cela?
Donc, je voudrais vraiment jeter un regard vers le gouvernement. Je pense que le gouvernement manque de vision par rapport à cette histoire de changement climatique. On n'attend pas que les choses arrivent pour venir courir, voir ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est depuis 2019-2020 que nous sommes confrontés, la RCA est confrontée à cette montée d'eau où il y a eu des sinistrés. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait pour dire en prévision, comment faire pour prévenir, ne pas attendre que les pluies inondent pour chercher des solutions en amont? Il fallait déjà voir comment trouver un site où on peut aménager pour que, quand il y a des cas comme ça, qu'on emmène les sinistrés. Vous voyez, notre organisation, Aolin, a assisté les sinistrés de l'île Bongoso. On a été plusieurs fois, d'autres, à trois reprises comme ça, vers eux, mais ils ont déploré leur situation, puisque l'assistance du gouvernement n'a pas été à la mesure de leur attente. Je sais que le gouvernement ne peut pas tout faire, mais ce qu'il devrait faire, c'est de penser déjà pendant la saison sèche. On sait qu'après la saison sèche, on va attaquer vers la saison pluvieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller déjà commencer à sensibiliser, demander pour voir les sites qui sont vraiment des sites à danger, à haut risque, de voir, de sensibiliser, de trouver un moyen pour voir. Bon, ben là, s'il y aura des pluies avec les changements climatiques, comme on le dit, c'est partout à travers le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà prévenir et les mettre en alerte? Dès que les pluies commencent, voilà ce qu'on peut faire. Mais si rien n'est fait, on attend que les pluies arrivent d'abord, les gens inondés pour vraiment prendre les dispositions, c'est grave. Et j'en profite pour dire que dans notre association, nous avons une dame là qui a eu des problèmes de ce genre. Elle est vers Kolongo. Elle a eu assisté sa concession.
Kolongo dans le sixième.
Dans le sixième. L'année passée, elle a eu à rendre service à des familles sinistrées. Comme elle a eu une grande concession, elle a hébergé 75 personnes. Mais pour les faire partir après, c'est tout un problème. Elle est venue vers moi, me dit, voilà, nous avons tout fait. Elle est allée même vers le département de l'action humanitaire pour dire, voilà. Mais au moment où elle a demandé à ses sinistrés de libérer sa concession, c'était tout un problème. Les sinistrés se sont retournés pour lui demander de les dédommager avant qu'ils ne quittent. Alors voilà, ce genre de situation, il faut sensibiliser les gens et leur montrer le danger. Je sais que c'est une responsabilité
collective.
Eux, en tant que personne, doivent aussi prendre les dispositions pour être en alerte maximum.
On y revient un à un sur la responsabilité de chacun dans cette affaire. Mais en écoutant le reportage tout à l'heure, député Yandoka, sur la situation, l'attente ou les attentes des sinistrés actuellement, qu'en dites-vous?
Au mois de juillet dernier, nous avons fait face, rien que pour cette année, ce n'est pas la première fois, mais en tout cas pour cette année, il y avait eu une pluie diluvienne de référence qui a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de maisons qui ont été détruites. Pendant cette période, il y a eu des sinistrés, je crois il y a eu des cas de blessés. Mais le problème, c'est que quand nous avons pris part, sous la direction du directeur de cabinet en cette période, à une table ronde avec les bailleurs, chacun faisait des propositions pour subvenir aux besoins d'urgence. Et malheureusement, on s'était confronté beaucoup plus à ce que le gouvernement avait dans son entrepôt, du reste des kits qui étaient censés résoudre le problème, je crois que c'était en 2020 ou 2019, qu'on nous avait remis pour donner, en attendant que les partenaires puissent apporter leur contribution. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, moi, dans le 4e arrondissement, il y a eu plus de 700 et quelques victimes, voire plus aujourd'hui, qui manquent de kits de première urgence. J'avais reçu que 84 à l'époque. Sur 700, vous voyez, il y a un gap à chercher. Mais le problème, Armando, j'aurais aimé avoir autour de cette table aujourd'hui le ministre des Travaux Publics. Parce qu'il va aussi de sa responsabilité. Le problème des inondations en République centrafricaine ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous prenez la cartographie des zones à basse altitude en République centrafricaine, vous allez trouver une bonne partie du 6e arrondissement, Bimbo 2, une partie du 4e arrondissement, et j'en passe. Ça, c'est des problèmes qui devaient être, tant que nous ne fassions pas un travail à long terme, de avoir une projection, de draguer les zones. Parce que le problème, c'est que quand vous avez l'eau qui vient et qu'au niveau des rapides, s'il y a l'ensablement, s'il y a quelque chose qui empêche l'eau de circuler normalement, l'eau ne peut que se déverser dans ces zones citées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Il faut d'abord commencer par que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, de regarder à long terme qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que d'ici le mois de novembre, au mois de décembre ou l'année prochaine, qu'on se retrouve plus dans la même situation. Parce que à chaque fois, quand il y a inondation, phénomène des déplacés, ça coûte de l'argent et le gouvernement peine à trouver des solutions appropriées pour non seulement héberger, loger les victimes, mais si nous prenons un peu de temps, c'est-à-dire que faire une réflexion à long terme, de faire une tour de table avec les partenaires, parce que pour moi, on parle de partenaires, mais les partenaires ne feront pas grand-chose si nous n'avons pas nous-mêmes pris le devant. Prendre le devant, c'est-à-dire d'essayer de créer ce qu'on appelle un fonds de garantie pour tout ce qui est catastrophe naturelle. Ça se passe un peu partout. En créant des niches fiscales, faire des prélèvements, que l'État doit d'abord avoir une caisse disponible pour répondre aux besoins quand il s'agit, mais d'abord de prendre le problème par le fond, c'est-à-dire commençons d'abord par essayer d'irriguer tout ce qui est canalisation, le fleuve Oubangui et autres, et progressivement nous allons monter parce que nous n'avons pas les moyens conséquents pour pouvoir répondre à ces besoins. Et comme vous le savez, Armando, il faut du concret. Monsieur le directeur de cabinet, essayez de faire remonter l'information auprès de votre ministre. La RCA ne peut que se développer si nous prenons les problèmes vraiment à bras le corps. Il faut qu'il y ait une volonté du gouvernement d'essayer de toucher d'abord ce problème. Si vous commencez, vous avez suivi, Armando, qu'il y a eu un décaissement d'un milliard et quelques, je crois que c'était en 2021, le gouvernement a acheté par le biais d'une entreprise une barge pour draguer le fleuve Oubangui. Essayer de faire sortir du sable pour qu'il y ait
l'écoulement facile.
Où en sommes-nous? On ne peut pas dépenser autant d'argent et aujourd'hui on se retrouve encore dans les mêmes situations. Et tout ça, ça a des conséquences. S'il y a un écoulement facile, vous allez voir que non seulement la voie navigable va être rentable pour le pays et aussi ça va éviter qu'il y ait des inondations dans ces zones.
Monsieur le directeur de cabinet, sur cette situation, le concret chez vous aujourd'hui, c'est quoi?
Merci Armando, parce que j'étais en train de vous présenter le constat. Mais je voudrais tout simplement rassurer les uns et les autres. Le gouvernement ne manque pas de vision, comme vous l'avez dit. Le gouvernement n'est pas inactif. Le gouvernement, depuis les événements de 2019-2020, a mis en place un comité de crise qui avait géré ponctuellement la situation et aussitôt après avait commencé à réfléchir sur les perspectives. Ça voudrait dire que au jour d'aujourd'hui, nous devons en principe savoir ce que nous voulons faire. Et ça, nous le savons maintenant. Pourquoi? Parce que nous disposons aujourd'hui d'une stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes. Ce document a été validé en juillet dernier dans un atelier qui a été présidé par le chef de l'État lui-même.
C'est quoi ce document?
Document de stratégie de réduction des risques de catastrophes.
Et le contenu, c'est quoi?
Le contenu, en fait, c'est comme, un plan d'action qui met en place une stratégie où, en cas de catastrophe, chacun sait ce qu'il doit faire.
C'est-à-dire, monsieur le directeur?
Mais c'est comme...
Qui sont les acteurs, bien entendu, qui vont intervenir?
Bon, voilà, justement. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de draguer le cours du fleuve, le fond du fleuve. Ça, c'est un département, ça, c'est un acteur qui doit le faire. Les TP, par exemple, le transport. Nous avons, par exemple, l'assistance. Ça relève du ministère de l'action humanitaire directement. Mais vous avez, par exemple, vous avez parlé des canaux d'évacuation d'eau et autres qui sont bouchés. Ça, c'est C'est un ministère qui doit le faire. Vous avez parlé de l'organisation, l'urbanisation. Il y a un ministère qui doit agir à ce niveau-là. Nous avons aussi l'intervention des autorités locales. Ça, le ministère de l'administration du territoire doit s'organiser. Donc, il y a un tableau à faire. Quand il y a un problème qui se pose, il doit y avoir un plan de contingence.
On peut parler.
Ce plan de contingence, c'est ça la stratégie.
On peut parler des ressources qui vont aller avec ça.
Mais non, mais justement, il faudrait que d'abord.
Comment allez-vous mobiliser les fonds pour réaliser cela? Parce honorable. Qu'il s'agit, il s'agit des départements ciblés ou des acteurs qui sont ciblés. Oui. Mais comment allons-nous trouver les ressources?
Oui, honorable. Comment voulez-vous, même si vous disposez de l'argent et que vous n'avez pas un plan d'intervention, vous ne ferez rien avec ça.
Non, mais c'est un projet. Vision.
Non, mais la vision, c'est le document de stratégie.
Non, mais parce qu'on ne peut pas avoir que le document de stratégie.
Mais le document de stratégie est budgétisé.
Sans pour autant penser.
Non, honorable, je suis désolé, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous mettez en place d'abord la stratégie, vous la budgétisez, et puis maintenant vous faites la recherche des financements, c'est ça.
Je parle de ce budget, ce que vous avez budgétisé.
On n'a pas
vous
à avez... budgétisé.
Ah, donc c'est demain.
Honorable, est-ce que vous pouvez permettre que je finisse mon travail?
Allez-y.
Ce que j'ai dit. Vous avez dit, hein, madame et vous avez dit, il n'y a pas de vision, il ne faudrait pas qu'on continue depuis des années à faire la même chose. Je vous ai dit depuis la dernière fois, le gouvernement...
En 2019, vous l'avez déjà dit, hein, en 2019-2020, ce document de stratégie...
Non, c'est...
De prévention de catastrophes.
C'est un document qui a été élaboré.
Enfin, renforcé ou élaboré?
Élaboré.
Parce qu'en 2019, comme disait Armando...
Il n'y avait pas ce document.
Mais il y a déjà un plan, il y a déjà un document stratégique dans ce sens... Mais malheureusement, parce que c'était, souvenez-vous, en novembre 2019,
oui.
Quand il y avait eu des catastrophes,
oui.
Où l'État ne savait plus quoi faire, et puis il y avait des acteurs qui agissaient d'une manière disparate. Et aujourd'hui, je pense que quand nous avons pris part à cette réunion, Madame la ministre avait rappelé à tous les partenaires de centraliser maintenant.
Voilà, ça c'était le comité de crise. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi le temps, je vais vous expliquer.
Oui, allez-y.
Le comité de crise n'a rien à voir avec le plan des contingences qui est contenu dans la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe.
Okay.
Il y a eu un problème ponctuel qui s'est posé et un comité de crise a été mis en place, présidé par le premier chef du gouvernement, secondé par la ministre en charge des affaires humanitaires, avec les ministères sectoriels et les partenaires agissant dans le domaine humanitaire. C'est lors d'une de ces réunions que vous avez participé, vous avez pris part, et on a parlé de ce qui devait être fait de manière factuelle par rapport à cette situation-là. Mais comme vous l'avez dit, on ne peut pas toujours attendre que les choses se passent pour qu'on intervienne. Il faudrait maintenant avoir de la vision.
Maintenant, cette vision, vous l'avez déjà, vous avez mis dans le document, et il faut trouver des moyens qu'il
Monsieur
faut.
Monsieur Bagamé, je n'ai pas fini. Je parlais de vision.
Non, mais vous avez dit que le gouvernement n'en a pas. Je voudrais rappeler, 2019 à aujourd'hui, nous avons pris le temps de le faire. Nous disposons aujourd'hui d'un document. Il nous faudrait maintenant mettre en place...
Vous le savez très bien qu'à l'heure actuelle, on ne parle plus du document, on veut parler du concret. Qu'est-ce qu'on veut faire? Les moyens qu'il faut pour accompagner la situation actuelle.
La situation actuelle, nous travaillons avec ce que nous avons.
C'est-à-dire,
vous étiez venu en juillet, quand il y a eu les catastrophes, vous êtes venu. Nous avons commencé à agir sur le plan de l'assistance, c'est-à-dire les mesures d'urgence. Nous avons mis à la disposition des premiers ménages les plus affectés, ceux dont on disposait. Parce que, honorable, je suis désolé, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et on avait commencé comme ça.
Oui.
Maintenant, aussitôt après, nous avons mis en place ce comité de crise et les partenaires ont commencé à mettre sur la table ce qu'ils avaient. Et ensemble, nous avons commencé à faire la répartition. Nous avons, depuis juillet à ce jour, nous avons touché près de 4500 ménages. 4500 ménages à Bangui. C'est pas les autres. Je parle pas des autres localités.
En l'air, vous mettez quoi, monsieur le ministre? Est-ce qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites, qui ont été reconstruites?
Mais voilà, justement, monsieur honorable, là, je suis désolé.
Je demande, c'est juste parce que vous avez touché 4000, c'est-à-dire que c'est pas
en assistance.
En assistance. Mais il y a des situations d'urgence.
C'est l'assistance d'urgence.
C'est-à-dire que, pour vous, vous parlez. Des kits de secours, c'est ça?
Les bâches. l'équipe de secours. Mais c'est ça l'assistance d'urgence.
Oui, justement. Mais ce, par exemple...
Casser une maison, c'est pas l'urgence.
Mais non, pas durable.
Mais non.
Mais c'est pas durable,
oui. Monsieur
qu'est-ce que vous attendiez? Bon, dites-nous concrètement ce que vous attendiez.
Non, non, non.
Ce que
nous attendons... Avant de poser la question, concrètement, à l'ère où nous sommes, qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère des Affaires sociales pour assister? Comme ça, on peut donner un peu de l'occasion, hein, parce que le monsieur est en train d'expliquer.
Oui, mais vous pouvez donner l'occasion. Oui. Allez-y d'une manière rapide.
Je pense qu'il y a un problème. J'aurais aimé avoir un représentant du ministère des TP avec vous. On allait poser le problème. Non,
on aura l'occasion. On est dans la situation actuelle.
Parce que ce que vous avez promis la dernière fois, effectivement, vous n'avez pas assez de moyens pour réaliser au moment où il y avait ces inondations en juillet. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Et nous voulons savoir exactement. Parce que entre-temps, il y avait eu des maisons qui ont été inondées, détruites. Est-ce qu'avec vos partenaires, ou bien le ministère des TP, et ou la MINUSCA, parce que vous avez fait mention de la MINUSCA, il y avait un problème particulier, que vous avez dit que la MINUSCA a pris l'engagement, par exemple, de construire ou de reconstruire des ponts qui ont été endommagés lors de ces catastrophes, ou de reconstruire, par le biais de certains de vos partenaires, des maisons qui ont été totalement détruites. Est-ce que à ce jour, il y a eu des ponts ou des maisons qui ont été reconstruites? Tout ce que je vous demande, monsieur le
directeur. Je voudrais, si vous souhaitez avoir les informations, que j'aille au bout.
Mais, allez-y, et surtout d'une manière concrète.
Synthétique.
Voilà,
oui. Honorable, vous aviez assisté à une seule séance de réunion de ce comité de crise.
Tout à fait.
Vous ne savez pas tout ce qui a été fait.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de nous dire.
Voilà, donnez-moi le temps et puis je vais vous le dire.
Ok.
Ce comité de crise, je vous ai dit, regroupait plusieurs ministères sectoriels, dont les TP. Le gouvernement, depuis 2019, a compris qu'il n'y avait pas seulement l'assistance à faire. Il fallait s'attaquer à la source du problème. Et nous savons que les causes d'inondation dans la ville, il y a aussi ce problème des canaux d'évacuation d'eau qui sont bouchés. Il y a les ouvrages d'art qui sont détruits. Des choses à remettre en place pour que les constructions anarchiques, la mauvaise gestion des déchets,
des ordures,
tout ça. Donc, c'est tout cet ensemble de problèmes-là auxquels il faudrait que le gouvernement s'attaque. Et cela relève de la responsabilité de chacun en ce qui concerne son domaine d'intervention. C'est pourquoi, de manière sectorielle, il y a eu tous ces différents ministères dans le comité de crise. Un plan de travail a été mis en place. Au jour d'aujourd'hui, même si nos amis de TP ne sont pas là, étant donné que je suis membre du comité de crise, je sais que le ministère de TP a fait des actions. Dans certaines zones, on a identifié les goulots d'étranglement. Là où, effectivement, c'est bouché et ça retient l'eau qui se reverse dans la...
Dans le quatrième, par exemple, vous avez identifié...
Non. Dans le quatrième, le travail est en train de faire vers Sato et autres, ça, il
non,
faudrait...
Non, ça, c'est pas le quatrième arrondissement.
Bon, je sais que j'ai un tableau. Il y a un tableau qui a été fait par nos amis des TP.
Okay.
Aujourd'hui, ils ont mis en place un chronogramme de travail qui va être mis en exécution. Mais vous savez que le gouvernement travaille avec un budget.
Et c'est ça le vrai problème.
C'est ça.
C'est ce que vous voulez en venir.
Aujourd'hui, tous ces problèmes ont été identifiés, budgétisés et proposés au ministère des Finances qu'il a inscrit dans le...
Et que vous manquez de moyens en vous écoutant pour exécuter tout ce que vous avez mis dans le programme, dans le document.
Le budget 2023 va être mis en activité.
Mais il faut encore 200 maisons.
Donc il faut attendre. Madame Chantal Toabina, vous voulez prendre la parole tout à l'heure.
Oui, je voulais juste rebondir sur les propos de Monsieur Mbaga qui parlait de réunions avec les ministères sectoriels. Est-ce que vous avez impliqué les organisations de société civile dans cette réunion? Les organisations non gouvernementales, parce que vous savez que ce genre de réunion, il faut impliquer, il faut avoir toutes les parties prenantes autour de la table, parce que nous avons un rôle à jouer auprès de la communauté à la base pour les sensibiliser, pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Par exemple, je rebondis encore puisque j'ai assisté à plusieurs reprises les sinistrés de l'île de Bongosoa. Leur besoin, c'était... je sais que le gouvernement ne peut pas construire des maisons à tout le monde. Mais voilà la préoccupation des sinistrés de l'île de Bongosoa, c'était d'avoir un site, c'est tout ce qu'ils voulaient. Avoir un site où le gouvernement peut leur affecter, un site vers Mboko, n'importe où, une zone vraiment normale. Qui ne... Et eux, maintenant, ils vont se dire qu'ils vont se battre pour se débrouiller et être installés à nouveau. Mais je ne sais pas, ces derniers temps, je n'ai pas eu l'occasion de repartir vers eux. Est-ce que leurs préoccupations ont été prises en compte, puisque d'après le chef, ils ont parlé de ça au ministère des actions humanitaires. Ils ont déjà fait cette proposition pour qu'on leur trouve un site. Alors, pour leur affecter un site, c'est également un problème de financement. Voilà mon souci. Est-ce qu'on a besoin de financement pour affecter un site à ces sinistrés?
Mais pour compléter la question de madame, avec ce que je sais que vous avez été à l'île de Mongoswa pour rencontrer les sinistrés de là-bas, mais sur le plan concret, sur le plan des reconstructions de certaines maisons et dans le document de stratégie que vous disposez, est-ce que ça peut permettre de reconstruire les maisons, aider les gens à vraiment avoir l'occasion de s'installer d'une manière définitive pour éviter ce genre de situation à répétition?
Voilà, je voudrais qu'on se comprenne. Je sais que l'honorable du 4e a eu la chance de voyager. Je sais que ma sœur Chantal a eu la chance d'aller dans d'autres pays. Mais je voudrais qu'on me donne l'exemple de pays qui reconstruit les maisons détruites par les catastrophes naturelles, les maisons des particuliers qui ont été détruites dans les catastrophes naturelles et qui donnent des parcelles à n'importe qui. Pourquoi? Attendez, j'en viens. Vous voyez, si on ne se comprend pas, on ne peut pas avancer.
Ok.
Je sais pourquoi je dis ça. Monsieur... Le dossier île Mongoswa, je voudrais vraiment humblement vous demander de la société civile, travailler avec le gouvernement. Vous êtes le bras du gouvernement. Nous avons géré le dossier île Mongoswa pendant 5 ans. Personnellement, j'ai piloté ce dossier parce que c'est le cas d'espèce d'incivisme qui est là. Pas tant. Je ne voulais pas utiliser le terme de rébellion contre l'action gouvernementale. L'île Mongoswa a été inondée totalement. Le ministère de l'Action humanitaire, toute l'équipe, je dis bien, s'est réveillée à 3 heures du matin pour aller les sauver, les faire venir de l'autre côté. Hommes, femmes, enfants, bétail, pour les installer à Sokada, sur un terrain d'un particulier. Le ministère a ensuite écrit à cette personne-là pour demander l'autorisation de les héberger pendant un certain temps. Et après, le ministère de l'urbanisme, après la crise de 2012, a essayé d'identifier les zones inondables non habitables. Et on leur a fait comprendre qu'il y a certaines zones qu'il ne faudrait pas, là où on ne doit pas construire, parce que ça peut entraîner des conséquences. Tout ce travail avait été fait en 2012. Et je crois que c'est là, à ce niveau-là, que la société, la communauté, la société civile devait nous appuyer pour éduquer la population, pour leur dire, n'allez pas ici, ou bien, voilà.
Quelques secondes.
Ensuite... quand ils nous ont demandé de leur trouver un site. 2 sites ont été trouvés. 2 sites, je dis bien. La première fois, on avait trouvé un site là-bas. On leur a affecté qu'ils ont estimé ça ne convenait pas avec leurs habitudes culturelles et autres. Ça, c'est après Bimbo, on va vers le cimetière...
Zila.
Voilà. Donc, le gouvernement était en pleine négociation. Parce que vous connaissez le problème de foncier ici chez nous. Il y a les habitants traditionnels, il y a ceci, il y a cela. Donc, on était en négociation et eux-mêmes, ils étaient venus nous dire que ça n'était pas en conformité avec leur culture. Ils sont des pêcheurs, ils souhaitaient très bien avoir quelque chose au bord du fleuve. On a arrêté le processus. On est allé vers Mbokolandia pour rechercher là-bas. Et ces zones là-bas, proches de Bangui, il y en a beaucoup qui sont déjà des propriétés privées. Il fallait continuer la prospection. On nous a trouvé un terrain. Avec le ministère de l'urbanisme, nous sommes allés identifier les choses avec les représentants des gens de l'île Mbongosa. Ils étaient d'accord. Mais après, le ministère, dans son plan et autres, s'est rendu compte que c'était une propriété privée. Il fallait continuer la prospection. C'est là qu'on va apprendre que l'île Mbongosa est devenue une propriété privée.
Ça, c'était en quelle année?
C'est depuis 2019.
Oui, mais nous ne parlons pas de l'île Bongoswa en ce
moment. Non.
Délocaliser.
Je suis en train de vous en parler. Les délocalisés. Quels sont les habitants de l'île Bongoswa?
On va vous aider un peu.
L'île Bongoswa n'est pas un village. L'île Bongoswa, c'est un campement de pêche.
Bon, oui, monsieur, je suis d'accord.
Habité par des âmes.
Mais c'est un campement. Donc, on ne va pas dire que. Si on vous demande, par exemple.
Monsieur le directeur de cabinet.
Que c'est un terrain qui est, appartient à quelqu'un.
Bon, il vous demande on ne peut pas se focaliser monsieur, sur ce programme.
Comment vous allez faire
oui. Vous ne devez pas sur la question que vous avez posée tout à l'heure.
Monsieur le directeur de cabinet.
Ensuite.
Monsieur le directeur de cabinet.
Oui. Souffrez. Non, Armando, je voudrais.
On ne va pas vraiment se terminer
sur le reste du débat. Moi, je voudrais que.
Vous avez posé la question dans quel pays aujourd'hui on peut reconstruire. Parce que nous, on ne veut pas parler de Mbongo Soit, etc. On veut parler de ce qui se passe actuellement.
Vous demandez à ce qu'on reconstruise.
Action du gouvernement pour venir en aide à cela.
Justement, il y a cette question-là. Cette question-là, je voudrais.
Ce que le gouvernement fait, à ce que je sache, et ce que nous faisons, nous l'avons fait, c'est l'assistance d'urgence. Quand une catastrophe arrive et qu'il y a un problème, tout de suite, nous allons vers les sinistrés avec ce dont nous disposons.
Ça, vous l'avez
avec
déjà
l'appui de nos partenaires.
Moi,
au-delà de ça, qu'est-ce que vous demandez?
Oui, vous avez posé une question pour savoir de vous dire où, dans quel pays, où quand il y a des catastrophes, le gouvernement construit.
Reconstruit à tout le monde.
Reconstruit à tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, je sais que le gouvernement ne peut pas construire à tout le monde. Mais au moins se trouver un site où on peut... Je prends l'exemple de l'autre là. En quelle année, quand il y avait cette catastrophe où un jaguar est tombé sur un quartier. Mais on a trouvé un site où on a construit vers Boereb des cités jaguars pour relocaliser ces victimes. C'est dans cette vision-là que je me dis... Le gouvernement ne peut pas attendre. Pour moi, quand je parlais de vision, c'est pour dire qu'il faut prévenir que guérir. Quelles sont les prévisions? Qu'est-ce que le gouvernement... On ne doit pas attendre que les choses arrivent avant de porter. Mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde pendant. Et c'est en amont. Associer la société civile pour essayer de travailler. Vous n'avez jamais associé la société civile à cette réunion ou échanger. On voudrait bien être là. Par exemple, quand j'ai pris part, j'ai été vers les sinistrés d'Île Mbongo Soa, effectivement, le président m'a dit que ils étaient pour Mboko. Ils étaient pour qu'on les délocalise sur Mboko.
Sur le site de Mboko.
Et ils sont en attente, mais... Plus rien. Voilà.
Oui, okay. Monsieur Yandoka.
Je voudrais juste rappeler au directeur de cabinet que tout à l'heure, on voulait juste vous ramener un peu dans le débat. Parce qu'on allait un peu être fixé.
Je cherchais à vous répondre.
Être fixé sur un cas particulier.
Lequel?
Mais je m'en vais. L'île Mbongo Soa. Je m'en vais vous dire que le patron des parcelles en République centrafricaine s'appelle l'État.
Oui.
C'est l'exécutif.
Oui.
Dans un pays comme le nôtre, ou dans les pays qui nous entourent, si vous regardez très bien, les impôts, les taxes qu'on fixe, c'est pour les orienter vers la prévision à une solution donnée, notamment...
Les solutions durables.
Non seulement durables, mais aussi les solutions d'urgence. Créer des fonds d'urgence, c'est pas quelque chose qui n'est pas impossible à faire. Ce que nous voulons, c'est de vous emmener à comprendre que le gouvernement, si le gouvernement avait prévisionné des fonds disponibles pour trouver des solutions d'assistance partielle ou à long terme, elle aurait pu le faire. L'histoire de Île Mbongo Soa, vous avez parlé de 2012. Nous sommes en 2022. Donc 10 ans passés. Et depuis le gouvernement...
Non, 2019.
Depuis les gouvernements qui sont succédés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une initiative allant dans le sens pour imposer. C'est-à-dire que le gouvernement a le devoir d'imposer à son peuple comment il veut que sa société, que les habitants se comportent. Mais vous parlez d'un civisme, donc cela relève de quoi?
Non.
De la faiblesse de nos autorités. Nous ne savons pas où se trouve parce que nous jouons les choses par émotion. Et quand on veut prendre une décision, il faut avoir le cynisme du visionnaire. C'est-à-dire, je sais que ça fait des années que ces problèmes-là arrivent. Je n'ai pas les moyens de draguer les fleuves maintenant. Voici ce que je vous impose. Et j'appelle les forces de l'ordre pour imposer à ces populations
Merci,
recalcitrants
Merci
de se reloger, faute de quoi ils seront soumis à des sanctions.
Les sensibiliser d'abord.
Avant, excusez-moi, avant de continuer le débat, je vous invite à suivre l'extrait de l'interview de Safari Djoumapili, chef de bureau adjoint de OCHA sur les conditions de vie des sinistrés. Il est avec notre reporter Maxime Joël Alain.
Pour le moment, il y a plus de 85 000 personnes affectées par les inondations, plus de 2 600 maisons qui ont été détruites, et plus de 18 000 hectares de cultures endommagées. Donc, dans 12 préfectures environ, y compris la ville de Bangui. Donc, notre plan de réponse humanitaire 2022 a un nombre très élevé de 3,1 millions de personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire. En plus, il y a aussi cette augmentation des personnes affectées par les inondations qu'il faut prendre en considération dans notre réponse humanitaire. Nous avons des ressources très limitées. Il nous faut encore des ressources additionnelles pour pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle vague de personnes affectées par les inondations. Mais nous avons pu assister plus de 43 000 personnes dans toutes les zones. Et il se trouve qu'il y a quelques zones qui restent encore inaccessibles. On ne pourra pas y apporter l'assistance. On travaille aussi avec les autorités locales dans toutes les zones qui sont affectées par les inondations pour pouvoir identifier les plus vulnérables, donc pour pouvoir apporter l'assistance humanitaire.
Oui, en écoutant M. Djoumapili, chef de bureau adjoint de OCHA Centrafrique, on comprend que même les organisations humanitaires ont des difficultés à pouvoir mobiliser des moyens afin de venir en aide aux sinistrés. La question est de savoir, existe-t-il au sein du gouvernement ou de votre ministère, monsieur, un fonds de prévention de catastrophes pour gérer ces imprévus?
Merci. Un fonds de catastrophe, non. Le gouvernement ne dispose pas d'un fonds en ce sens. Nous avons, depuis 1996, un fonds national de solidarité qui a été créé, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est ravitaillé que par le budget de l'État. Et je vous parlais de cette stratégie qui a été adoptée en juillet. Il est question maintenant de mettre en place tout ce dont nous sommes en train de parler ici. C'est-à-dire, il y a par exemple la projection pour la création de nouveaux quartiers. Ça, c'est prévu dans cette nouvelle stratégie. Il y a la mise en place d'un fonds, parce que le Fonds national de solidarité, dans sa définition, cette loi qu'il avait mise en place en 1996, était très large. Donc il fallait maintenant voir dans quelle mesure mettre en place un fonds spécial dédié au secours, assistance d'urgence.
Donc vous convenez avec moi que c'est ça la solution.
Mais si vous m'aviez donné le temps, honorable, je vous aurais dit que c'est inscrit.
Mais aussi, tout ça reste un projet. Mais maintenant, nous sommes obligés. Concret, puisque vous avez parlé du moyen qui fait défaut à ce moment.
Pour le moment, même les partenaires, ils viennent de vous le dire, ils ont les moyens.
Donc pour l'instant, ça veut dire que rien.
Le plan de réponse humanitaire dont il parlait ici, c'est quelque chose qui est mis en place pour qu'on mobilise des ressources. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons mobilisé, enfin, pour ce plan, c'est 70% seulement de tout ce qui a été prévu pour financer ce plan de réponse humanitaire qui est mobilisé au jour d'aujourd'hui. C'est pour dire même que les moyens, les partenaires internationaux ne disposent pas de ce dont on a besoin.
Oui,
on a encore moins un gouvernement d'un pays qui sort d'une grande et complexe crise. Il y a seulement 6 ans.
La parole.
Non, vous avez terminé, monsieur. Le contexte socio-historique doit être pris en compte. Oui. Sinon, ça voudrait dire qu'on fait de la mauvaise foi.
Oui, monsieur Mbaga, on
est d'accord avec vous parce que nous vivons tous ici en Centrafrique.
Donc, vous savez que c'est un pays
N'empêche que nos orientations en matière de dépenses ne répondent pas aux besoins de la société centrafricaine.
Je crois qu'on sort du cadre de notre...
Vous avez rappelé cette question d'utilisation des
ressources. Vous, ça, c'est le ministre des Finances qui aurait pu vous répondre.
Vous représentez le
gouvernement bien déterminé. Je n'ai pas dit que vous allez répondre à l'action humanitaire.
L'action humanitaire, M. Mbaga vient de nous rappeler très gentiment qu'il existe un mécanisme depuis 1996 qui s'appelle
un fonds de solidarité.
Voilà. Ce fonds de solidarité regroupe plusieurs volets. Il suffisait, M. Baga, que le gouvernement renforce ce fonds de solidarité. Au lieu de chercher par voies et moyens pour attendre à ce que ce soit les ONG qui nous viennent en aide, il suffisait de renforcer cela, de donner les moyens nécessaires pour pouvoir avoir un fonds de garantie pouvons pallier à ce type de problème d'urgence.
Okay.
Je suis désolé, mais comme avait dit Mme Touabena, c'est juste un problème de vision. Nous avons
c'est tout. Trop facile. Honorable.
Nous avons quasiment tout. Et vous allez constater, Armando, c'est qu'au fur et facile. À mesure, comme nous savons, je connais M. Bagas, c'est un technicien, c'est un commis d'État, c'est quelqu'un qui a la connaissance parfaite des dossiers. Plusieurs projets sont dans les tiroirs. Il suffit seulement de les sortir et de voir et de l'adapter.
La volonté.
De l'adapter aux besoins réels. Le génie centrafricain, je disais la semaine dernière, qu'il nous manque le génie. Il ne faut pas attendre à ce que ça soit les ONG. Parce que le directeur de OCHA a dit, j'étais là. J'étais là avec vous quand il nous faisait des promesses. Mais où en sommes-nous? Ne vous rendez pas compte que les gens sont venus juste pour nous assister, mais
nous
pas
appuyer.
Pour nous dire ce que nous devons faire. C'est à nous de leur dire ce que nous voulons. Pour l'instant, voici les problèmes. Nous ne voulons pas que vous agissiez dans tel ou tel domaine. Agissez ceci parce que nous voulons que cela dure dans le
on
temps.
On écoute d'accord. Mme Chantal Touabena. Si les autorités comptent beaucoup plus sur les organisations non gouvernementales dans ces conditions, pensez-vous que les causes de ces sinistrés seront vite prises en compte à l'heure où nous sommes?
Franchement, j'aimerais dire sans langue de bois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement est le garant. Le gouvernement doit être en avant et avoir l'appui. Les ONG internationales sont là pour nous appuyer. Mais si le gouvernement ne fait pas de cette vie, comme M. Mbaga nous a dit qu'il y a déjà des documents, nous, on n'est pas informés. Il y a des choses qui se passent qui devraient intéresser tout le monde, toutes les parties prenantes. Mais si on n'est pas informé de ce document de stratégie, et moi, je dis qu'il y a un manque de volonté du gouvernement de faire avancer les choses. Il y a un document de stratégie qui est là. Moi, je le dis, je sais, je connais la situation du pays, je sais ce que nous traversons. Nous sommes tous des Centrafricains et nous vivons dans ce pays depuis des années. Mais quand il y a une volonté, tout en sachant que en ce moment, la situation humanitaire par rapport climatique, là, changement, les changements climatiques, changement climatique, il faut avoir de la vision et mettre en application cette vision déjà pour essayer de minimiser un peu les risques. Si nous attendons, il faut voir les choses en amont, commencer à préparer, qu'est-ce qu'il faut faire. Admettons que les pluies qui doivent arriver doivent faire plus de dégâts, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier et minimiser les risques déjà. Mais si nous attendons, moi mon souci c'est que on ne doit pas croiser les bras, attendre avant de réagir.
Le temps nous fait défaut. Vous avez une minute, Monsieur Mbaga, sur cette question pour rebondir.
Je suis désolé si j'écoute ce que dit ma sœur et ce qu'a dit l'honorable. Mm-hmm. Le document de stratégie nationale, suivez-moi bien, de réduction de risque de catastrophe. A répondu à votre problème. La vision, c'est là. Comment faire pour que, en prévision, ça, c'est la prévision, pour éviter...
C'est pas un dialogue de sourds.
Mais,
hein,
non, vous allez dire, mais monsieur, comment existe depuis, mais pourquoi?
Non,
ça fait plus d'un an, vous avez une copie de 19.
Attendez, je vous en prie, il a été validé, c'est-à-dire le processus d'élaboration, qui en 2019 temps, a été validé en juillet 2022 par le chef de l'État.
Seulement.
Voilà. Et c'est depuis 2019 qu'on a constaté, on s'est dit, on manque de plan de contingence. Donc il faudrait prendre le devant.
Donc le gouvernement s'est réveillé en 2022.
En fait, attendez, il a été validé en 2022, en juillet 2022.
Oui,
après,
mais ils ont eu l'idée en 2019.
Après la catastrophe naturelle de 21 et 22 juillet. L'idée a été conçue plus que 2019, mais bien avant.
Vous non, comprenez? Bien avant, ça on le sait.
Bien avant, mais sauf qu'on attend seulement, attend seulement qu'il y ait catastrophe avant de chercher à savoir si il existe un tel document,
vous savez,
dans nos tiroirs, oui ou non.
Les conséquences qu'on sait mieux que parfois.
C'est ce que nous sommes en train de vouloir vous faire remarquer. Non. On n'est pas contre, mais n'attendons pas à ce qu'il y ait catastrophe avant d'agir.
On ne peut pas être médecin après la mort, c'est ça l'idée. Mais vous avez de prévisions. Vous avez de prévisions.
Nous avons
l'avez prévision. Dit, mais vous, c'est que vous avez dit. Moi, je vous écoute. Les auditeurs vous écoutent que vous manquez de moyens
qu'il faut pour accompagner ça,
personne
votre document.
Nul n'ignore que la République centrafricaine a des difficultés. Il existe au niveau de ce pays des tensions de trésorerie et qui font que le pays ne peut pas tout faire à la fois. Nous sommes obligés d'y aller étape par étape, aller de plus urgent au moins urgent.
Et donc ça veut dire que s'il y a encore des catastrophes, des sinistrés, à partir de demain ou bien d'aujourd'hui en allant, le gouvernement serait submergé en vous écoutant.
Le gouvernement agira toujours. Un pays ne peut pas être en faillite. Ça, il faudrait qu'on le sache. Un pays reste un pays. C'est un État.
Un État
qui est
souverain.
Organisé, qui est souverain. Ça, il faudrait qu'on le sache. Donc,
il existe des moyens, mais qui ne sont pas assez.
Les moyens ne sont pas forcément les moyens financiers. Quand, par exemple, vous parlez de ces partenaires qui interviennent, mais ils sont là pour qui? Ils sont là pour accompagner le gouvernement. Ils ne sont jamais substitués à l'État. Parce que depuis le retour à l'ordre constitutionnel, je le dis parce que je sais, j'ai traversé plusieurs régimes.
Monsieur, attendez,
je n'ai pas fini. Je suis.
Souffre un peu de l'écouter.
Voilà, ça c'est un minimum que je vous demanderai. Je dis ça parce que je sais. Depuis 2016, nous avons dit le leadership doit revenir au gouvernement. Parce qu'avant ça, j'étais dans l'humanitaire déjà. Le leadership n'appartenait pas au gouvernement. Les ONG internationales venaient, descendaient à l'aéroport et allaient sur le terrain pour travailler automatiquement.
On n'est pas sur ce point. On n'est pas sur ce point.
Donc, le leadership dont vous parlez aujourd'hui revient au gouvernement parce qu'il y a une coordination qui se fait au niveau du ministère.
Vous l'avez déjà dit, 30 secondes, monsieur Yandoka.
Il y a un document, un décret.
Monsieur Mbaga, vous avez terminé votre.
Qui a mis la coordination.
Monsieur Mbaga, je vais vous retirer la parole. Monsieur Yandoka, 30 secondes.
30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes?
Voilà. Oui, on n'a pas le temps.
Juste les grandes lignes.
Mais la suite, je vous attendrai au ministère pour
gagner
temps. Toutes les informations.
Oui, justement, j'aimerais bien prendre connaissance de ces documents.
Ça existe.
Monsieur le directeur,
nous voulons du concret.
Ce que Mme Toibena vient de m'arracher, le concret, c'est ce que le peuple attend du gouvernement. Je ne dis pas pourquoi je dis le gouvernement, parce que ça ne touche pas spécialement votre département. Vous êtes juste un maillon du système. Donc il y a plusieurs ministères, y compris beaucoup plus, parce qu'on n'a pas parlé, Armando, au niveau de la municipalité de Bangui. Il y a un problème. Parce que on pointe
mais
le problème.
Il fait partie du comité de crise.
Justement. Donc allez dire au maire de Bangui que les travaux de canalisation qu'il fait aujourd'hui dans la ville de Bangui ne répondent plus aux normes actuel. Puis je prends l'exemple de l'avenue Boganda. Quand vous prenez centre-ville, je vois qu'il y a des gens qui font les travaux dans des caniveaux qui étaient à l'époque, c'était je ne sais pas de 60 cm de diamètre, ça ne répond plus. Même si vous arrivez à bitumer ce tronçon, vous allez trouver toujours le même problème d'inondation à cet endroit. Il faut réfléchir grand, rêver grand, faire des projections.
Madame Chantal Toibena,
ne gérez pas le problème, c'est-à-dire que le gouvernement doit avoir une ligne.
Vous l'avez déjà dit, on donne la parole à Madame Toibena, le temps nous fait de faux. Quelques secondes sur la question, vous revenez, vous parlez du concret tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout satisfaite.
Non, comment voudrais-tu que je sois satisfaite quand je vois des gens dans des situations déplorables? Donc il faudrait un peu de volonté. Moi, ce que je demande au gouvernement, c'est une volonté. La volonté politique de prendre à bras le corps cette situation. Ils ont leurs documents de stratégie, mais en ce moment, ça nous amène où? On a besoin du concret. Voilà ce que j'ai à dire.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci aussi à nos invités. Bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.